Je vous invite à prendre vos Bibles et de prendre dans vos Bibles Philippiens chapitre 1 et le verset 21, où nous allons lire encore la parole de Dieu écrite par l'apôtre Paul, parlant de son expérience, parlant de ses désirs, comme vous allez voir maintenant. Nous allons considérer ce matin le dilemme de l'apôtre Paul. Est-ce que vous avez trouvé Philippiens chapitre 1 et puis le verset 21, un des versets les plus connus dans cette lettre de Paul aux Philippiens? Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Voici notre texte. Que Dieu nous aide ce matin à pouvoir mieux le comprendre. Dans ces versets, vous voyez peut-être que l'apôtre discute son avenir physique. Regardez dans vos Bibles le verset 22, où il parle de la vie dans la chair. Et puis dans le verset 24, vous pouvez voir qu'il parle de demeurer dans la chair. Alors que veut-il dire Paul quand il parle de vivre et demeurer dans la chair? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il explique ce qu'il veut dire dans le verset 25 quand il dit « Je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous. » Ainsi, le fait de vivre et de demeurer dans la chair a référence à une vie physique qui continue. Et je clarifie ça au début tout simplement parce qu'il y a des endroits où Paul emploie le mot « chair » pour dénoter son corps physique. Et parfois, pour parler de l'ennemi à l'intérieur de lui-même, cette partie non régénérée qui lui tracasse, c'est sa chair, sa nature pécheresse. Mais ici, la référence est manifestement à sa vie physique. Il mourra un jour, mais à une date ultérieure. Donc il va continuer à vivre dans la chair, sur la terre. Sa vie va continuer. Mais quand vous lisez ces versets, il faut se rappeler que ces versets ne sont pas écrits par un tiers, ils ne sont pas écrits par quelqu'un d'autre qui parle de Paul, ils sont écrits par Paul lui-même, et donc ils expriment son propre avis, son propre point de vue, et donc on pourrait classer ces versets comme le point de vue de Paul concernant son avenir. Ce que Paul lui-même pensait, son avis, son désir concernant son avenir. Et c'est ce qui rend ces versets très très personnels. Ils sont même autobiographiques. Ils sont le point de vue personnel de Paul concernant son propre avenir. C'est peut-être un détail surprenant, mais 70% des versets dans cette lettre aux Philippiens ont pour sujet Paul lui-même, à un degré ou à un autre. Donc Paul va fournir toutes ces informations concernant lui-même, et puis il va dire dans le chapitre 3, et en fait regardez-le, prenez le chapitre 3, ça ne peut pas être loin, si vous êtes déjà en Philippiens chapitre 1, puis prenez le chapitre 3, trouvez le verset 17, il nous donne toutes ces informations concernant lui-même, et puis il nous dit, 3:17, « Soyez tous mes imitateurs, frères » ou « Suivez tous mon exemple, frères ». Donc ce que cela suggère, c'est que le point de vue personnel de Paul concernant son avenir est prévu par Dieu et conçu par Dieu pour être un exemple que je suis chargé de suivre. C'est son point de vue personnel, oui, mais il est donné par Dieu comme exemple à suivre. Donc nous devons partager même ces mêmes désirs, ce même point de vue. Donc commençons ici. En voyant les possibilités qui étaient devant Paul, les possibilités qui étaient devant l'apôtre Paul, le verset 22 explique le nombre de possibilités qu'il avait devant lui. Il dit « Je suis pressé des combien ?» Des deux côtés. D'accord ? Donc il y a deux possibilités devant lui. Et dans le verset 21, il les énumère très succinctement. D'une part, il y a ceci, il y a ma vie. Et de l'autre part, il y a ceci, de mourir. D'accord ? On ne pouvait pas l'énoncer plus simplement que cela. Il y a la vie, il y a la mort. Et la dernière fois que nous avons vu ensemble Philippiens, nous avons consacré le sermon entier à une de ces deux possibilités. C'était laquelle ? Vous vous rappelez ? On a parlé de la mort du chrétien. Et c'est ainsi que c'est la première possibilité devant Paul, c'est effectivement c'est la mort physique. Et ce que nous avons découvert, c'est que pour Paul, et rappelez-vous, il est notre modèle, la mort physique était meilleure, mieux que la vie. C'était un gain, c'est le mot qu'il utilise dans le verset 21. Ça, c'est quand même une déclaration forte de dire que la mort est un gain pour moi. On n'entend pas souvent ça à la radio, à la télé. Mais il faut quand même avouer qu'il y a des gens, même dans cette ville, qui sont sur le point de se suicider, qui seraient en accord avec cette déclaration. Pour eux, la vie est tellement grave, et il y a tellement de difficultés, tellement de soucis, et tant de tristesse, que pour eux, la mort est un gain. Ils préfèrent la mort à la vie. Donc il faut tout de suite se poser la question, pourquoi ? Pourquoi, Paul, est-ce que la mort est-elle meilleure que la vie ? Et ce que vous découvrez est que Paul est loin d'être suicidaire, il est loin d'être déprimé. C'est pas parce que la vie est moche, c'est pas parce qu'il n'aime pas la vie qu'il croit que la mort est un gain. Ce qui rendait la mort un gain pour Paul est le fait que pour Paul, vivre sur cette terre était Christ, verset 21. On a vu notre union actuelle avec Christ qui rend la mort physique meilleure que la vie. On avait parlé que si la vie pour vous c'est l'argent, eh bien effectivement la mort serait la perte de l'argent. Si la vie pour vous c'est autre chose, la mort apporte la perte de ces choses. Mais si pour vous la vie c'est Christ, eh bien la mort devient un gain parce que ça vous apporte plus de Christ. Donc vous pouvez dire avec Paul, Christ est ma vie, ou mieux pour moi vivre c'est Christ. Vous pouvez également dire, eh bien mourir est un gain. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle la mort physique est bien meilleure que la vie, et cela est trouvé dans la description de Paul, trouvé dans le verset 23, regardez-le, de ce que la mort signifie pour le chrétien. La mort pour le chrétien signifie de s'en aller, et quoi ? Et d'être avec Christ. C'est ça que signifie la mort pour le chrétien. C'est l'anticipation donc de mon union future avec Christ qui rend la mort physique meilleure que la vie. Nous sommes, il est avec nous, mais un jour nous serons avec lui, et c'est tout autre chose, notre union future avec Christ. Et puis notez comment il exprime son avis personnel concernant cette option, ou cette possibilité. Parmi ces deux possibilités, nous dit Paul, cette deuxième option serait, et quelle est l'expression qu'il emploie, ce serait bien meilleur, vous voyez, bien meilleur. Donc on pourrait marquer cette deuxième possibilité de cette façon. Ça, c'est le désir personnel de Paul. Le désir personnel de Paul. De m'en aller. Vous voyez ça dans le verset 23 ? C'est un mot très riche. De m'en aller. C'est dans l'Antiquité, on employait ce mot pour parler des fois de la libération d'un esclave. Il pouvait s'en aller. Parfois pour le largage des amarres, quand un bateau faisait voile pour sa destination, le bateau s'en allait. Parfois pour le lever du camp d'une armée, l'armée s'en allait. Mais dans chaque cas, il parlait du fait de laisser quelque chose d'une manière permanente, de le laisser derrière, de le quitter pour toujours, pour pas y revenir. Et donc Paul, il dit, je veux m'en aller, je veux lever le camp, je veux larguer les amarres, je veux faire voile, je veux aller au ciel pour être avec Christ. C'est ça son désir. Car de m'en aller et d'être avec Christ, il dit, est bien meilleur. Encore une expression qui est très forte parce que c'est un triple comparatif. On pourrait le traduire de cette façon, beaucoup à un plus grand degré, plus excellent. Il y a trois comparatifs là-dedans. C'est très beaucoup meilleur, dit Paul. Donc avez-vous jamais rencontré quelqu'un qui se sentait vraiment comme ça, concernant le ciel ? Paul en était un. Il dit, j'ai le
désir, verset 23. Et ça encore, c'est un autre grand mot. Ça veut dire avoir une passion pour quelque chose. J'ai une passion de m'en aller et d'être avec Christ. Ce n'était pas tout simplement un souhait qu'il avait, qu'il espérait, se passerait un jour. Il avait vraiment une passion de partir et d'être avec Christ. Donc on doit avouer que Jésus-Christ était vraiment réel pour l'apôtre Paul.
Christ a dû être quelqu'un qui était pour Paul plus qu'une religion, plus qu'une foi à laquelle il adhérait, plus qu'un style de vie auquel il se conformait, plus qu'une sous-culture à laquelle il appartenait, plus qu'une inspiration dont il puisait ses forces. Jésus-Christ, le vrai homme, ou on pourrait dire Dieu-homme, celui qui est né d'une vierge, celui qui a vécu une vie sur la terre, celui qui est mort sur la croix, celui qui est ressuscité, cet personnage historique et réel était vraiment réel pour Paul. Et il avait une passion d'être avec lui.
Donc il a dû le connaître. Il a dû l'aimer pour avoir une telle passion d'être avec lui. Vous savez, si vous n'aimez pas Jésus, vous n'allez pas aimer le ciel. Le ciel sera beau que pour ceux qui aiment le Seigneur. Et ceux qui n'iront pas au ciel sont ceux qui ont choisi de ne pas être avec Jésus-Christ. Parce que franchement, ils ne l'aiment pas. C'était une des possibilités, c'était son propre désir. Et donc, je vous demande, et vous, est-ce que c'est votre désir ? Il y avait une autre possibilité devant Paul, et c'était qu'il pouvait continuer de vivre pendant un certain temps, bien sûr. Et pour Paul, de vivre n'était pas simplement de vivre jour après jour, de faire la retraite, d'aller en vacances. Le fait de vivre était pour Paul la connaissance que, regardez le verset 24, à cause de vous, c'est-à-dire les autres croyants, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Je désire m'en aller, mais par nécessité, je dois rester ici. C'est ce que Paul dit. Je désire m'en aller, mais par nécessité, vous avez besoin de moi, il dit. Et il ne dit pas ceci par orgueil, il magnifie tout simplement sa fonction, sa charge. Et vous pouvez faire de même. Un prédicateur a dit, quand vous trouvez ce que Dieu veut que vous fassiez, et l'endroit où Dieu veut que vous le fassiez, vous êtes la personne choisie de Dieu pour ce travail. Et vous devez magnifier cette charge. Si Dieu vous a choisi pour une charge et vous a mis dans un endroit, il veut que vous travailliez pour lui, ben vous êtes la personne choisie par Dieu. Et vous pouvez magnifier cette charge. Un autre prédicateur s'appelle James Montgomery Boyce, qui est maintenant depuis longtemps avec le Seigneur. Il parlait de la prédication de la parole comme le moyen principal pour la croissance d'une église locale. Il a dit une fois, quand nous parlons de l'importance de la prédication, les prédicateurs sont inclinés modestement de dire, eh bien, après tout, personne n'est indispensable. Et naturellement, c'est vrai si vous le comprenez dans le bon sens. Mais en même temps, il est également vrai que si Dieu a appelé un homme à être un prédicateur dans une situation particulière, cet homme est, par l'appel et la disposition de Dieu, indispensable pour cette situation. S'il assure du bon leadership et un bon enseignement de la parole de Dieu, cette église avancera. S'il ne le fait pas, cette église n'avancera pas. Ce n'est pas surestimer la situation de dire que ces choses sont vraies. Et ce qui est vrai du prédicateur dans son domaine d'influence est vrai de chacun de nous dans le domaine que Dieu nous a placé. Si c'est dans la famille en tant que père ou mère, frère ou sœur, si c'est dans le domaine des études ou du travail, Dieu nous a placé quelque part et nous sommes la personne choisie pour cette œuvre. Nous ne pouvons pas l'échapper, nous ne devons pas la diminuer, nous devons magnifier la charge que Dieu nous a donnée. Donc telles sont les possibilités de Paul. La première, on peut appeler le désir personnel de Paul. La deuxième, on pourrait l'appeler la connaissance de Paul du besoin de l'Église. Mais je veux que vous notiez maintenant, si on peut le dire comme ça, la perplexité de Paul.
Il est rendu perplexe par ces deux options. Ces deux possibilités sont présentées comme un dilemme. Un dilemme se produit, au moins dans ce cas, quand vous avez deux choix qui vous attirent simultanément, de la même force, vous ne savez pas quoi choisir. Et notez la tension, effectivement la pression qui existe en Paul. Il dit, regardez le verset 23, « Je suis pressé des deux côtés ». Donc cette expression décrit une circonstance où vous vous sentez opposé des deux côtés et la pression est égale de chaque côté. La pression vient de tous les deux côtés, en fait, c'est ce qu'il dit littéralement. « Je suis pressé », il utilise ce mot « pression » et puis cette pression vient des deux côtés. Et quand ce mot est utilisé dans la Bible, il y a toujours la détresse, même la douleur impliquée. Par exemple, on le voit en Luc chapitre 12, où Jésus parle et il dit « Mais il y a un baptême que je dois recevoir » et il parle de sa mort. Et puis il dit « Et quelle angoisse est la mienne tant que je ne l'ai pas reçue ?» Et Paul choisit ce même mot et il l'utilise pour exprimer la difficulté en choisissant entre ces deux possibilités pour trouver la meilleure option. Et Paul a vécu sa vie entière sous cette pression, cette tension, cette angoisse même. C'est presque impensable, n'est-ce pas, de penser, de trouver même un homme pour qui ces deux possibilités causent ce genre de tension émotionnelle. Je crois que nous connaissons tous ces situations où nous avons été dans un dilemme, où il fallait choisir entre la peste et le choléra. Mais je dois admettre que je n'ai jamais senti une telle pression entre les choix de la mort et la vie. Pour moi, franchement, c'est un choix qui est assez simple et facile à faire. Si je devais répondre à la question « Quelles sont les pressions qui te poussent ou qui me poussent de ce côté, c'est-à-dire de rester en vie ?» Peut-être la première réponse qui viendrait à l'esprit serait ma famille et mon amour pour ma famille. Et si vous me demandiez « Quelles sont les pressions qui vous poussent ou qui vous attirent dans l'autre direction, c'est-à-dire de quitter la terre pour être avec Christ ?» Je dois admettre que je n'ai jamais senti une très grande pression comme l'apôtre décrit ici. Alors je vous demande de vous demander la même question. Pourriez-vous dire que votre passion d'être avec Jésus-Christ est si forte et crée une telle pression dans votre vie que ça crée un dilemme entre le désir de vivre sur la terre et de rentrer au ciel ? Vous sentez cette pression même dans la vie de tous les jours. J'ai peur que ce soit un attachement au Seigneur que je ne connais pas encore. Mais notez dans vos Bibles ce qui crée pour Paul la pression de l'autre côté. Bon, du côté du ciel, on le sait, c'est Jésus, c'est d'être avec Christ. C'est pas pour avoir une maison en or, c'est pas pour avoir plus de troubles et de difficultés. Ce qui lui pousse vers le ciel, c'est ce désir d'être avec Christ. Ah, mais de l'autre côté, c'est quoi qui lui pousse à rester sur terre, à continuer à vivre? Si vous le voyez, ce ne sont pas des relations, des liens humains. Ce n'est pas un certain rêve inassouvi. Ce n'est pas une certaine ambition personnelle ou un désir corporel. Ce n'est même pas le désir naturel de l'homme de continuer à vivre. Ce que nous avons vu en Haïti, des gens enfermés pendant des jours, mais ils continuer à espérer pour la vie. Mais ce n'est pas ça, c'est ceci. Dans sa tête, c'est ceci. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin de mon service. Et l'apôtre Paul a passé toute sa vie sur cette pression. D'une part, un désir personnel d'être au ciel avec Christ, et de l'autre côté, une conviction que son service était nécessaire sur terre. Et rappelez-vous que nous sommes appelés à suivre son exemple. Quand c'est des pensées personnelles pour lui-même, c'est d'être au ciel. C'est quand il pense aux autres qu'il est mené à vouloir rester aussi sur terre. Laissez-moi simplement demander cette question pour notre considération. Que signifie-t-il quand ni l'une ni l'autre de ces possibilités font aucune pression sur nous? C'est-à-dire, on ne connaît pas du tout la pression de vouloir partir pour être au ciel avec Jésus-Christ. Ça nous dit rien de tout. Et de l'autre côté, on ne connaît pas du tout la pression de vouloir aider l'Église de Dieu, être au service des enfants de Dieu, de servir les autres. Qu'est-ce que ça dit de nous et de notre état spirituel quand nous ne sentons ni l'une ni l'autre de ces pressions qui gouvernent et qui contrôlaient la vie de Paul? Je crois qu'au mieux, c'est l'immaturité, n'est-ce pas? Et au pire, c'est qu'il n'y a aucune vie spirituelle en nous. Franchement, nous regardons un homme aussi perplexe face à de telles possibilités et nous le pensons extraordinaire, bizarre, même un peu étrange. Pourquoi ça lui gêne de vouloir être avec Christ? Il y a quelque chose qui ne va pas? Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie? Non, non, dit le Seigneur. Non, non, ça c'est un chrétien mûr. Suivez son exemple. Suivez son exemple. C'est pas que la vie va mal, hein. C'est parce que Jésus-Christ est tant mieux que la plus belle des vies. Et puis nous voyons aussi dans ce texte, troisièmement, la conviction de Paul. Si vous regardez le verset 25, il dit, bon, cela j'en suis convaincu, ou persuadé que vous avez. Je sais donc. À quoi Paul se réfère-t-il quand il dit « je suis convaincu » ou « je suis persuadé » ? De quoi est-il convaincu ? Et je crois qu'il y a trois choses ici, et ils se basent l'un sur l'autre. La première chose est ce qu'il vient de dire dans le verset 24. Regardez-le. « Mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. » Cela, j'en suis convaincu, je suis persuadé de cela. Donc, on peut dire que la première chose serait la nécessité de son ministère au service de l'Église. Il était convaincu de ça. Il était convaincu de la nécessité de son ministère au service de l'Église. On a déjà parlé de cela. Mais peut-être vous disiez, ben, je ne suis pas un apôtre. Donc, effectivement, ce que je fais n'est pas nécessaire. Et dans un sens, c'est vrai. Dieu n'a besoin de qui que ce soit. Il peut, comme Jésus lui-même a dit, utiliser les pierres, hein, pour raconter sa gloire. Mais dans l'autre sens, si Dieu vous a choisi, par son choix, vous devenez nécessaire, voyez? C'est pas parce que vous avez quelque chose en vous-même, mais c'est parce que Dieu vous a choisi pour cette œuvre. C'est comme Jonas. Dieu l'a choisi. Dieu aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Il s'est enfui. Dieu aurait pu dire, ah, tant pis pour lui, je vais choisir quelqu'un d'autre. Non, puisque Dieu l'a choisi, Jonas est devenu indispensable au travail à laquelle Dieu lui avait appelé. Et Dieu a envoyé même un poisson pour l'arracher de la mer, pour lui sauver la vie. Il ne pouvait même pas mourir avant qu'il accomplisse la volonté de Dieu pour sa vie. Et c'est la même chose pour vous. Peut-être que ce n'est pas une chose importante. Peut-être que ce n'est pas une chose vue de tous les autres. Peut-être que c'est quelque chose de caché, inaperçu des hommes, mais vu de Dieu. Mais vous êtes, je vous promets, chacun, chacune de vous, vous êtes indispensable pour ceux à laquelle Dieu vous a appelé. Et vous pouvez avoir une conviction que votre ministère est nécessaire dans le sein de l'Église. Et deuxièmement, il a la conviction que ce qu'il continue à dire dans le verset 25. Je suis persuadé, ou j'en suis convaincu, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous. Voilà, donc, s'il dit, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous, c'est évident qu'il ne pense pas qu'il va être condamné, exécuté par Néron. Au lieu de cela, il est persuadé qu'il va être libéré, qu'il va continuer à vivre. Et il est intéressant de voir que sa conviction n'est pas basée sur une proclamation de Néron. Il n'avait pas encore entendu la fin de cette enquête. Il était toujours en prison, il n'était pas encore libéré. Donc ce n'est pas basé sur une proclamation venant de Néron. Ce n'est même pas basé sur une révélation spéciale venant de Dieu. Enfin, du moins dans la mesure où nous le savons. C'est basé, cette certitude, cette conviction, cette persuasion est basée tout simplement sur le besoin qu'avaient les croyants pour son ministère. Il voyait autour de lui les besoins et il voyait que Dieu lui avait donné des dons pour ses besoins. Il a dit, eh bien, je suis sûr que je ne vais pas mourir. Ils ont toujours besoin de moi. Vous voyez cela ? Regardez encore le passage dans le verset 24. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair, et puis là au milieu du verset 25, je sais donc que je resterai et que je demeurerai parmi vous. Parce qu'à cause de vous, il est plus nécessaire. Et puis la troisième chose dont il est si confiant, dont il a la conviction, c'est le succès de son ministère parmi eux. Le succès. Le verset 25, regardez-le encore. « Et je suis persuadé que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, ou pour contribuer à votre progrès et votre joie dans la foi, on y reviendra tout à l'heure, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. » D'accord ? « Afin que » ou au milieu du verset 25, je vais rester parmi vous pour ces choses, pour contribuer à l'avancement, ou pour votre avancement. Il sait que son ministère parmi eux aura du succès. Il va pouvoir contribuer d'une façon légitime à la foi, à la joie des chrétiens. Personne aime perdre, n'est-ce pas ? Personne aime travailler pour rien. Je pense à ces athlètes aux Olympiques qui ont travaillé pendant 4 ans. On a vu plusieurs, je crois que c'était hier soir, ils commencent le piste en ski et au bout de 3 secondes, ils sont par terre. C'est fini pour eux. Ils ont tout raté en 3 secondes, 5 secondes. Ils n'ont même pas arrivé au fond de la piste. Personne n'aime travailler pour rien. Mais Paul sait qu'il ne va pas travailler pour rien. Il y aura du succès. Dieu va l'utiliser. Si Dieu vous appelle à un ministère, il va vous utiliser. Et il y a 3 aspects à ce ministère réussi. Vous le voyez ? D'abord, il y a leur progrès dans la foi. Il y a leur progrès dans la foi. C'est dans le verset 25. « Je suis persuadé que je demeurerai, que je resterai avec vous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. » Donc pour votre avancement dans la foi, pour contribuer à votre progrès dans la foi. Et puis quel est le deuxième aspect ? Pouvez-vous me le dire ? Votre progrès, votre avancement, et puis votre quoi ? Vous voyez ? Votre joie aussi dans la foi. Verset 25. Votre avancement ou progrès et votre joie dans la foi. Parlons un peu de ces deux choses. D'abord le mot avancement. C'est le même mot que nous avons vu il y a quelque temps, mais dans le verset 12. Vous pourriez, si vous le souhaitez, relier d'une façon ou d'une autre ces deux mots. Regardez le verset 12 de chapitre 1. « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Au progrès de l'Évangile. Et après, il va expliquer « à Rome ». Mais là, il est en train de dire, dans le futur, Dieu va m'utiliser au progrès de l'Évangile dans vos vies aussi. Le progrès, ce mot signifie de couper en avant, c'est une définition très littérale, de couper en avant. Il était utilisé par des armées qui devaient voyager à travers des territoires rudes et accidentés, et donc ils envoyaient devant eux ce que nous pourrions appeler des ingénieurs, qui allaient devant l'armée pour couper en avant un chemin dans les broussailles, pour préparer le chemin pour que l'armée puisse avancer. Et donc l'image mentale que ce mot évoque et évoquait certainement aux Philippiens est d'un groupe d'hommes qui coupent en avant un chemin, mais face à l'opposition. C'est difficile, c'est pas évident, mais il va devant eux pour préparer le chemin pour leur foi. Et c'est ce genre de ministère que Paul anticipait, un ministère dans lequel il allait couper en avant leur foi, il allait travailler pour le progrès de leur foi, pour le découpage vers l'avant, si vous voulez, de leur foi. Et vous savez, c'est ce genre de ministère que nous devons avoir les uns pour les autres. Nous devions faire un retranchement des broussailles, nous devons aplanir le chemin les uns pour les autres. Je sais que le désir de votre pasteur, en tant que votre pasteur, est que votre foi avance, que votre foi progresse. Mais vous connaissez peut-être certains qui semblent simplement être collés, bloqués, coincés depuis 5, 10, 15 ans. Ils font que tourner en rond. Et peut-être ils ont besoin de quelqu'un qui vient à côté d'eux pour être un encouragement, pour leur apporter de la dynamisation, la prière peut-être, pour les aider à avancer maintenant dans leur foi. Peut-être c'est vous qui êtes coincé dans votre foi. Peut-être c'est vous qui tournez en rond et vous avez besoin de quelqu'un d'autre. Je connais des individus dans cette salle et beaucoup ailleurs qui ont eu ce ministère dans ma vie. Et je ne sais pas s'ils m'ont pris exprès comme projet, mais leur ministère envers moi a servi au progrès de ma foi. Des choses qu'ils m'ont dit, les prières qu'ils ont faites pour moi ou avec moi, l'encouragement qu'ils m'ont donné au temps de difficultés a servi, grâce au Seigneur, à l'avancement, au progrès de ma foi. Que vous pouvez penser à quelqu'un qui a eu ce genre de ministère dans votre vie? Avez-vous ce genre de ministère dans la vie de quelqu'un d'autre? Nous habitons dans un monde et dans une culture où tout le monde vit pour soi-même. Et on ne pense pas même au progrès des autres. On ne pense pas à servir les autres. Mais le ministère de Paul était pour le progrès de leur foi, mais ça dépassait ça. Hein. Ce n'était pas que ça. Regardez le verset 25. Je suis persuadé, je sais que je demeurerai, que je resterai avec vous tous pour votre avancement dans la foi. Et pour votre quoi? On l'a dit tout à l'heure. Votre joie dans la foi. Donc, laissez-moi vous expliquer un peu de grammaire grecque. Hein. Je ne suis pas là pour vous enseigner la grammaire française, mais un peu de grammaire grecque. Parce que tous les noms en grec sont précédés par un article. Comme en français, le, la, un, une. Mais parfois, si la personne qui parle veut démontrer un rapport étroit, même parallèle, entre deux mots, entre deux noms, il va mettre le mot « et » entre les deux noms et puis il enlèvera, il omettra l'article devant le deuxième nom. Donc, au lieu de dire « l'homme et la femme », il dira « l'homme et femme » pour démontrer qu'ils vont ensemble, l'homme et femme. Et c'est ce que nous avons ici. Ce qui serait normalement le progrès et la joie, ou l'avancement et la joie, devient plutôt l'avancement et joie. Votre avancement et joie. Pour nous signaler qu'il y a un rapport très étroit, même parallèle, entre ces idées. Mon progrès dans la foi et ma joie dans la foi. Et ce que la Bible indique, l'expérience confirme, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe quand vous arrêtez de lire votre Bible, de prier, quand vous n'avez même pas envie de prier, quand vous avancez plus de jour en jour dans votre foi? Qu'est-ce qui arrive à votre joie? Elle disparaît, n'est-ce pas? Elle n'y est plus. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous croissiez dans le Seigneur avec une rapidité fulgurante, quand presque chaque verset de la Bible vous parle, quand vous appréciez, vous bénéficiez de la prédication de la parole de Dieu, quand vous attendez avec impatience la réunion de prière pour pouvoir prier avec d'autres croyants, quand vous voyez Dieu répondre à vos prières, qu'est-ce qui arrive à votre joie? Ben votre cœur déborde de joie. Parce que vous êtes en train de grandir, de progresser, d'avancer dans la foi. Et c'est le problème pour plusieurs parmi nous. Nous avons plus cette joie en Jésus-Christ parce que, en fin de compte, nous avançons plus. Nous sommes coincés, nous sommes collés. Et peut-être même ce matin, Dieu vous appelle par son esprit à vous mettre encore en marche, en route, vers l'avant, pour pouvoir reconnaître la joie, pour pouvoir retrouver la joie que vous avez eue auparavant en Jésus-Christ. Ainsi, le succès attendu de son ministère parmi eux a ces trois éléments. Leur progrès dans la foi, leur joie dans la foi multipliée, et puis ceci dans le verset 26. Regardez le verset 26. Afin que, par mon retour auprès de vous, afin que, donc encore un résultat prévu, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Une autre tradition française nous dit de placer votre fierté en Jésus-Christ. Vous aurez occasion de placer votre fierté en Jésus-Christ. Je deviens, c'est ce que dit Paul, l'occasion pour vous de vous glorifier en Jésus-Christ. Ma libération, mon ministère devient l'occasion pour vous de vous glorifier encore plus en Jésus-Christ. C'est-à-dire, vous faites de moi un sujet de vantardise, de se vanter. Et Paul dit, je suis persuadé que vous avez besoin de moi, que je resterai probablement ici sur terre avec vous, et cela étant le cas, j'aurai un ministère qui fait progresser votre foi, qui vous apporte la joie à vos vies, et qui vous permette de vous vanter, de vous glorifier encore plus dans le Seigneur. à cause de ce que vous voyez dans ma vie et dans mon ministère parmi vous. Et effectivement, c'est ce que le Seigneur veut faire aussi avec nous. Il veut utiliser nos temps en prison, si on peut dire comme ça, hein, nos difficultés, et puis ses réponses à nos prières pour apporter la fierté, la gloire des autres croyants autour de vous, pour que des autres croyants autour de vous vous voient dans cette situation, voient le Seigneur qui vient à votre secours, voient sa main dans votre vie et il donne gloire à l'Éternel à cause de vous. Vous voyez, la vie c'est plus que moi et le Seigneur et c'est tout. Dieu m'utilise pour le bien des autres. Dieu me donne des fardeaux à porter, des joies à connaître pour le bien-être des autres aussi. Et donc quand il y a ces fardeaux, quand il y a ces joies, il ne faut pas les garder que pour soi. Sinon on n'apporte pas aux autres le bienfait que Dieu a conçu pour eux à travers nos expériences. C'est pour ça que c'est important de vivre en tant que communauté, en tant que chrétien. Pour ne pas vivre chacun pour soi, nous devons vivre en tant qu'assemblée de Dieu. Partager nos soucis, nos joies, nos craintes, nos peurs, toute la vie, pour pouvoir connaître la main de Dieu, pas seulement dans nos vies, mais voir la main de Dieu dans la vie de ceux qui nous entourent. C'est ce que Paul espérait. Il n'était pas content que pour lui qu'il allait être libéré de prison. Il était content parce que ça allait donner aux Philippiens maintenant une raison de se vanter en Jésus-Christ, de se glorifier en Jésus-Christ. Donc Paul avait ces deux possibilités, ces deux options, entre la vie et la mort. Et évidemment, Paul avait un certain choix dans l'affaire. Nous ne savons pas comment, dans la sphère de la souveraineté de Dieu, Paul avait un choix qu'il pouvait faire. Dieu pouvait bien sûr annuler ce choix, mais néanmoins, il a ces deux options. Il y pense à ces deux possibilités. Partir pour être avec Christ, pour lui c'est facile, c'est de beaucoup le meilleur. Rester pour avoir un ministère parmi les chrétiens avec toutes les difficultés que ça entraîne. Et laquelle gagne? Parmi ces deux options, il choisit laquelle? Quelle option Paul a-t-il considéré comme le plus nécessaire? Verset 24. Vous voyez, Paul devient notre exemple dans la façon dont nous devons établir nos priorités. Donc pensez ce matin, travaillez avec moi, hein, presque à la fin, mais pensez ce matin à n'importe quel désir ou ambition que vous pourriez avoir en ce moment. Hein, payer l'empreinte de votre maison, rénover quelque chose dans la maison, vous amuser avec votre passe-temps préféré, mieux connaître une certaine personne, je ne sais pas, vous pensez à quelque chose, d'accord? Vous l'avez trouvé? Un désir, le plus grand désir dans votre vie. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose de meilleur que de partir et d'être avec Christ? Non, il n'y a rien de meilleur que ça. Il n'y a rien de mieux que ça. Et maintenant, êtes-vous prêt pour ceci? Qu'est-ce que Paul a-t-il considéré comme étant plus nécessaire que cela même? Plus nécessaire que d'être au ciel, avec Christ, sans tous ces troubles et ces difficultés. Il voulait y aller, mais qu'est-ce qu'il a considéré comme étant encore plus nécessaire que ça? Servir les saints, avoir un ministère parmi les croyants. Et vous savez, si vous connaissez la suite de l'histoire de Paul, Paul était effectivement libéré de prison. Il a eu encore un ministère fructueux parmi les églises, mais il est venu à un moment où il n'était plus nécessaire pour que Paul demeure dans la chair. Et Paul a été de nouveau emprisonné à Rome, et ce deuxième procès a fini avec la prononciation de la peine capitale. Et on lui a, selon l'histoire, coupé la tête. Mais Paul n'est plus parmi nous aujourd'hui. Et écrivant à Timothée pendant son deuxième emprisonnement, donc quelques années plus tard, et peu avant son exécution, Paul avait dit dans ceux qui sont parmi les derniers mots qu'il a jamais écrits, il a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à ceux, tous ceux qui auront aimé son avènement. » Donc, il est venu un jour où Paul a pu dire, ça y est, maintenant j'ai combattu le bon combat. Maintenant, j'ai achevé la course. Mais quand il a écrit la lettre aux Philippiens, il n'avait pas encore achevé la course. Il avait toujours à combattre le bon combat. Et il savait que tant qu'il était toujours ici sur terre, c'était afin d'accomplir sa mission. Alors je vous demande, savez-vous que vous aussi, vous avez une mission sur la terre à accomplir? Et si vous avez toujours de l'air dans vos poumons, ce que j'espère, si vous êtes là aujourd'hui ce matin, c'est parce que vous n'avez pas encore fini votre tâche. Vous dites, mais je me sens vieux et fatigué. Eh bien, prenez courage. Dieu ne vous aurait pas laissé ici s'il ne pensait pas qu'il pouvait vous employer à l'avancement de son royaume. Ne cessez pas, mes amis, de combattre le bon combat au milieu de la bataille. Ne cessez pas, n'arrêtez pas, jusqu'à ce que le bon combat soit terminé et la course soit complètement achevée. Il ne faut pas arrêter. Et à tous ceux qui se sentent toujours jeunes, c'est tout le monde, j'imagine. Mais il faut dire, il ne faut pas gaspiller notre énergie sur ceux qui n'est pas à la gloire de Dieu et à l'avancement du royaume. Il faut demander à Dieu de mettre cette pression dans nos vies, la pression d'un désir d'être avec Christ et la pression d'une connaissance qu'il y a un travail à faire ici-bas pour le Seigneur. Qu'on puisse vivre la vie sous ces pressions. Ça va nous guider, ça va nous aider à mener le bon combat. Vous connaissez peut-être le nom de George Whitefield, c'était un évangéliste célèbre du grand réveil dans les colonies américaines avant la guerre révolutionnaire. Il a prêché plusieurs fois à plus de 30 000 personnes sans aide, sans autre parleur ni rien, à la fois, 30 000 personnes à la fois. Et quand Whitefield était au seuil de la mort en 1770, il a exprimé cette tension admirablement. Il a dit, combien j'aimerais vivre à jamais pour prêcher Christ, mais je meurs pour être avec lui. J'aimerais vivre à jamais pour prêcher Christ, mais maintenant je meurs pour être avec Christ. Quel beau témoignage! Que le Seigneur fasse que ce soit le mien et le vôtre, même au jour de notre mort. Prions. Seigneur, nous voyons l'exemple de l'apôtre Paul et nous savons que ce sont des choses dont nous n'avons pas l'expérience comme lui. Mais nous voulons la voir, nous voulons la connaître. Et nous te supplions de nous envoyer ton esprit dans nos cœurs pour nous presser avec ces vérités, que la vie ne soit pas vécue à notre guise, mais sur le contrôle de ces pressions, pour qu'on puisse dire un jour que nous aussi nous avons achevé la course et que la couronne nous attend au ciel. Amen.